Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous. À partir du 4 juillet prochain, débutera le festival Nancyphonie sous la houlette de Hugues Leclerc, son directeur artistique, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Hugues.
Bonsoir Dominique.
Alors, 18 manifestations publiques, dont 17 concerts et un cours public. Les ménomanes nancéens vont avoir de quoi se réjouir le cœur et les oreilles avec une programmation toujours aussi riche, diversifiée et de qualité. Tout ça, en fait, c'est un peu l'ADN des Nancyphonies.
Oui, c'est avoir un mélange de concerts gratuits, de concerts avec des jeunes artistes et des stars aussi mondiales. Et tout ça dans des programmes qui sont souvent hors des sentiers battus.
D'accord. Alors, la première manifestation du festival sera un cours public donné aux élèves du conservatoire du Grand Nancy par un ancien élève de ce même conservatoire, le pianiste Romain Descharmes. Vous pouvez nous parler un petit peu de lui ?
Oui, ça a été mon élève pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il rentre au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Et puis après, il a commencé tout de suite une carrière. C'est un excellent lecteur, il déchiffre absolument n'importe quoi. Et puis il a surtout eu le premier prix du concours de Dublin, qui est un concours de premier plan au niveau international. Et il n'arrête pas de jouer. Il est maintenant mon collègue au CRR de Paris. On n'a pas tout à fait le même âge, mais on n'est pas si éloigné que ça, parce que j'étais jeune à l'époque, moi aussi.
D'accord, très bien. Eh bien écoutez, je propose qu'on l'écoute dans le premier mouvement de la sonatine de Ravel.
Thank you.
C'était le premier mouvement de la sonatine de Ravel sous les doigts de Romain Deschamps, qui sera le premier pianiste convié au festival du Nancyphonie de cet été. Alors Hugues Leclerc, dans l'ADN des Nancyphonies, il y a la place faite aux jeunes. Et cette année, vous avez invité les 4, 5 et 6 juillet, 4 personnalités en devenir ou déjà lancées dans le grand bain du métier de musicien. Vous pouvez nous parler de ces jeunes ?
Oui, alors ils sont 5 en fait. Hein. Liam Dugelet, Chinyao Chen, Yonas Tachiro, Pierre Roinvy et Grégoire Camerlo-Gabillard. Alors ils ne sont pas tous au même stade de développement de leur carrière, puisqu'à cet âge-là, ça va vite quand on a du talent. Ouais. Donc Chinyao Chen, elle est aux portes du Conservatoire National Supérieur, elle n'a que 15 ans. Elle a été mon élève, elle est extrêmement brillante, hein. Très très virtuose, extrêmement intelligente. Yuna Tashiro est déjà diplômée du Conservatoire Supérieur. Elle vient de rentrer en master au CNSM de Lyon. Elle est plus âgée, elle est extrêmement construite, très mûre. Pierre Roinvy a presque 30 ans, il poursuit un doctorat en Allemagne de piano. Et il est l'élève du parcours d'excellence en interprétation musicale au CRR de Paris. Garçon très brillant, très intelligent, avec beaucoup de goût pour des répertoires curieux. Et puis vous avez Grégoire Camerlo, Gabillard, qui vient d'être admis au CNSM de Paris. Donc là, on est sur un garçon de 18 ans qui est en plein devenir, qui va s'épanouir. Yam Dugelet, qui est un ancien élève à moi aussi, et lui qui a terminé la Chapelle Royale de Bruxelles et qui termine un Master 2 à Vienne. Donc tous ces jeunes, c'est les grands pianistes de demain, c'est sûr.
Très bien. Et on les entend dans d'autres festivals aussi, ils ont déjà une petite carrière.
Bah, ça dépend. Évidemment, Chinyao a quand même déjà une carrière, mais bon, pas au point de Pierre Roinvy ou de Yuna Tashiro ou de Liam Dugelet. Liam Dugelet, il vient de faire une avant-première pour la pièce Amadeus à Paris. Il a fait 40 dates, je crois. Enfin bon. Donc c'est quelqu'un qui a le statut déjà d'intermittent du spectacle, donc ça veut dire qu'il fait une soixantaine de dates par an.
D'accord.
Voilà. Bon, après, il a 22 ans, hein, donc ouais. c'est très jeune.
Oui, oui. Bien. Alors, dans la foulée de ces jeunes artistes, vous accueillez un artiste qui est plutôt jeune, mais enfin, qui reste un artiste plein, on va dire. C'est le mardi 7 juillet, c'est Bertrand Chamaillou.
Oui, Bertrand Chamaillou, c'est un magnifique pianiste français, peut-être le plus connu actuellement. Il a une carrière mondiale absolument exceptionnelle, il n'arrête pas. Et il était, donc c'est dans la thématique de cette année, hein, prodige, c'est un prodige. Il a montré des capacités exceptionnelles très très tôt, avant l'âge de 10 ans. Il est rentré très jeune au Conservatoire supérieur, on est sorti très jeune aussi, a commencé immédiatement une carrière internationale. Donc il est vraiment formidable, il a quelque chose de très complet, il aime tous les répertoires, et notamment la musique contemporaine. Il a été proche de Boulez à un moment donné. Il aime beaucoup l'œuvre de Messiaen aussi, et il fait aussi beaucoup de créations. Et son programme est tout à fait étonnant. Donc il a pris Mendelssohn et la Wanderer Fantasie de Schubert, et là-dessus, il a bâti des résonances avec, alors ça va de Franz Liszt, le grand transcripteur, Clara Schumann, Fauré, mais aussi les Beatles, hein, John Lennon,
j'ai vu ça,
et Paul
oui.
McCartney, transcrit par Toru Takemitsu. Voilà, et puis aussi Crumb et Courtag, qui sont deux merveilleux compositeurs très, bon, assez consonants, on va dire. Hein, oui. Donc l'un qui est hongrois et l'autre américain. Donc tout ça va faire un camailleux et une espèce de voyage très excitant.
Voilà, il n'y a pas Chopin au programme, mais on va écouter Bertrand Chamaillou dans une berceuse de Chopin. Thank you. C'était Bertrand Chamaillou, Chopin, La berceuse en ré bémol majeur, opus 57. Alors Hugues Leclerc, il y a d'autres concerts de piano, avec notamment Émile Rybarski, Ariel Beck, Alexandra Dovgan ou Albert Mamrieff. Vous pouvez nous dire quelques mots de tous ces pianistes ?
Oui, alors il faudrait du temps. Hein,
ah oui, mais on n'en a pas.
Il y a des choses, hein, et des choses, beaucoup de choses dans leur actualité, dans leur création et dans leur genèse. Donc Ariel Beck, elle a été l'élève du CRR de Paris. Après, elle est rentrée au CNSM, elle est rentrée chez nous à l'âge de 9 ans ou 8 ans, je ne me souviens plus. Elle a été tout de suite, elle a explosé, c'est vraiment une prodige, il n'y a pas d'autre mot. Intellectuellement aussi, elle vient d'avoir la révélation de
Victoire de la
interprète au Victoire de la Musique 2026. Elle a tout juste 17 ans, et donc elle a déjà une carrière de 8 ans de concerts internationaux, et c'est une fille qui a les pieds sur terre, qui est très bâtie, qui a un univers intérieur incroyable. Et puis, elle est un peu en concurrence avec Alexandra Dovgan, on peut le dire, qui, elle, a quand même 19 ans, elle est beaucoup plus vieille.
Ah bah oui, rien à voir.
Et Alexandra Dovgan, elle est la protégée de Grigory Sokolov. Mmh. Quand Ariel est la protégée de Martha Argerich, donc elles sont bien chaperonnées, on peut le dire, de grande élégance. Et Alexandra Dovgan aussi a une carrière incroyable. Elle va jouer là au Théâtre des Champs-Élysées en juin. Elle a joué avec l'Orchestre National de France, la Rhapsodie de Rachmaninoff sur un thème de Paganini le 16 avril dernier. Mmh. C'était absolument magnifique. Voilà, elle fait le plus grand salle. Alors, Albert Mamrieff, c'est un pianiste d'origine russe israélienne. Il est extrêmement talentueux. Il a gagné le premier prix du concours de Pretoria, le concours très célèbre qu'a gagné aussi Pierre-André Hamelin, François-Frédéric Guy. Mmh. Et donc, il s'est spécialisé dans les transcriptions de Wagner. Et donc, il revient à ses amours avec tout un florilège. Alors, certaines transcriptions par Liszt et certaines par lui-même.
D'accord.
Et quant au jeune Émile Rybarski, c'est le grand espoir de la Macédoine du Nord. Le fils de Rybarski, un tromboniste tout à fait stupéfiant, un grand virtuose du trombone, qui a fait des milliers de concerts dans le monde. Mmh. Et sa mère qui est pianiste, Milena Rybarski. Et donc Émile arrive avec un programme de grand, hein, les 24 préludes de Chopin, ouais, et les tableaux d'une exposition. Donc là, on est... Ouais. Tout ce beau monde joue dans la cour des grands en termes de répertoire, et ça va être vraiment passionnant. Alors à noter qu'il y aura plusieurs sonates de Chopin, la troisième, ça va faire un peu concours international, mais ça va être aussi très intéressant.
Ben c'est clair. Bien, alors il y a aussi deux concerts auxquels la voix viendra se joindre au piano dans deux programmes tout à fait différents, mais tout aussi attachants. C'est Julie Chérier-Hoffmann et Frédéric Chastelin d'un côté, et puis Charlotte et Aaron Weinberg de l'autre.
Alors oui, Julie Chérier-Hoffmann, c'est une ancienne du Conservatoire de Nancy, mmh, qui fait maintenant une carrière internationale. Et elle adore La voix humaine, donc de Francis Poulenc, sur un monologue de Jean Cocteau. Et cette espèce d'œuvre étrange de 1958, où on met pour la première fois le téléphone en scène, hein, puisqu'il est... c'est un monologue vocal, et l'héroïne parle à son amant, mais c'est une rupture par téléphone. Mmh. Donc c'est un peu pour une préfiguration de ce qui se passe maintenant, où on envoie des messages d'amour par SMS, mais aussi des ruptures. Alors c'est encore moins poétique. Mais à l'époque, Poulenc a eu vraiment un coup de foudre pour cette idée. Et ça donne quelque chose de très curieux. C'est pas extrêmement long, ça fait une petite heure. Hein. Mmh. Et c'est très, très singulier. Donc c'est une tragédie lyrique, on peut dire, en un acte. Et la soprano doit... mimer finalement ce dialogue avec une autre voix qu'on n'entend pas.
D'accord.
Et quant au Weinberg, alors là, son mari est femme, hein, oui, et Charlotte Weinberg, qui est la soprane, a été Grand Prix Reine Elisabeth. Donc ça, c'est une récompense tout à fait majeure. Et d'ailleurs, on peut trouver son concours hein, sur Internet. C'est absolument magnifique. Et donc là, ils sont dans un répertoire, le très grand répertoire lyrique, avec une partie française et puis une partie plus opératique. Donc ça va être très intéressant. Ça va de Bernstein à Mahler. Et après, on retombe dans de la musique française. Donc je pense qu'on aura un très beau panorama des capacités vocales entre ces deux concerts.
Très bien. Alors, pour illustrer ces deux concerts, je vous propose Julie Chéri-Hoffmann et Frédéric Chastelain dans une pièce qui sera au programme du couple Charlotte et Aaron Weinberg, Le Colibri, une mélodie d'Ernest Chausson. C'était Le Colibri, une mélodie d'Ernest Chausson dans l'interprétation de Julie Chéri-Hoffmann, soprano, et Frédéric Chastelain au piano.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors Hugues Leclerc, on a parlé piano, mais vous ouvrez aussi le festival au clavecin avec un concert donné par Jérôme Mondésert, qui est professeur de clavecin au Conservatoire du Grand Nancy. C'est un concert décentralisé, puisque vous avez aussi cette particularité de décentraliser certains des concerts de Nancyphonie.
Oui, donc ce concert aura lieu à Vendeuvre, dans la salle dîner, que nous aimons beaucoup, et qui fonctionne bien avec les claviers. Moi, j'y avais joué en piano forte, tout ce qui est sur pied et à clavier sonne bien dans cette salle, et particulièrement clavecin. Et là, on a une acoustique assez définie, alors que souvent on fait ça dans des églises et on perd un petit peu le grain. Enfin, c'est pas à vous, Dominique, que je vais expliquer ça. Alors, Jérôme Mondésert, c'est un claveciniste et organiste, pianofortiste aussi, donc qui a décidé de jouer les trois grands, on peut dire, hein, donc François Couperin, Jean-Philippe Rameau et puis Johann Sebastian Bach. Là, on est vraiment dans le sommet de l'écriture pour clavecin, début du 18e. Hein, donc, alors, chez Bach, la quatrième partita, magnifique œuvre, le 8e ordre de François Couperin, de la dynastie des Couperins, puisque ils étaient plusieurs, hein, les Couperins.
Oui, oui, oui.
François est peut-être celui qui est le plus célèbre. Et puis Rameau, l'élégance française incarnée aussi. Ils sont très différents, Couperin et Rameau, hein, n'est-ce pas, Dominique?
Ah oui, oui, oui. Tout à fait.
Bah, écoutez, et donc ça va être une belle confrontation, je pense, sur un récital entier.
D'accord. Bah, écoutez, on va écouter la sarabande de la suite en la mineur de Rameau dans l'interprétation de Jean Rondeau. C'était la sarabande de la suite en la mineur de Jean-Philippe Rameau dans l'interprétation de Jean Rondeau. Alors, Hugues Leclerc, il y a le dimanche 12 juillet, l'ensemble Les Virtuoses avec Vadim Tidjik au violon et vous-même au piano. Pardon. Pour un concerto assez ébouriffant, c'est le double concerto de Mendelssohn Et c'est assez peu courant d'avoir juste le violon et le piano en soliste, non ?
Oui, c'est vraiment une formation assez rare. Alors, il existe un double concerto du même genre de Mozart que j'ai joué. Mais alors, on a qu'une partie du premier mouvement et c'est un Américain qui a reconstitué les deux.
D'accord.
Et Mendelssohn, là, on est vraiment, c'est une œuvre de jeunesse. Alors, on voit tout le talent du jeune Mendelssohn.
Ah oui.
Il avait 14 ans. Ça foisonne de virtuosité.
Ouais.
C'est plein d'idées mélodiques. La construction est déjà extrêmement rigoureuse et c'est surtout, ça a une présence majestueuse. C'est vraiment, le final notamment, a une construction qui montre bah, évidemment le grand génie que va devenir Mendelssohn avec l'âge. Mais enfin, mais il vieillira pas beaucoup. Mais voilà, donc c'est une œuvre qui est assez peu jouée. Il faut dire qu'elle est vraiment redoutable pour les deux instruments solistes. Le violon a des fameuses cadences qui sont en double corde, qui sont vraiment pas commodes. Et puis au piano, ben, c'est du Mendelssohn, donc c'est très vite et très virtuose des deux mains. Et l'ensemble est jubilatoire.
Ben oui, puis il y a même des moments où c'est très vite et très fort, très vite et très virtuose, en même temps au piano et au violon.
Oui, il faut beaucoup travailler.
C'est pour ça
que c'est pas si souvent joué finalement. C'est difficile.
Écoutez, je vous propose d'écouter votre version avec Vadim Tchidik, l'ensemble Appassionato. C'est un enregistrement qui a été fait à Vérone. Vous vous en souvenez peut-être ?
Oui, bien sûr.
Oui, hein, c'était pas long, il y a pas longtemps.
Un grand plaisir dans le Grand Théâtre, dans la salle de musique de chambre du Grand Théâtre. Où j'avais déjà joué le trip de Beethoven, qui est un lieu absolument incroyable. Alors, c'est pas dans les arènes, hein, évidemment.
Non.
Mais enfin, on avait quand même 500 personnes pour ce concert. C'est en direct, hein, c'est en live.
D'accord. Oui, c'est ça. Eh bien, on écoute un morceau du final.
Thank you.
Voilà, c'était un extrait du final du concerto pour violon et piano de Mendelssohn dans l'interprétation de l'ensemble Appassionato avec au violon Vadim Tchidjik et au piano mon invité Hugues Leclerc. Si vous voulez entendre l'intégralité, ça sera le dimanche 12 juillet à 16h dans les grands salons de l'Hôtel de Ville.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Voilà, alors maintenant... On ne fait pas un festival d'été sans inviter un quatuor à cordes. Et vous avez choisi un tout jeune ensemble qui répond au doux nom de quatuor Citadelle. Pouvez-nous expliquer tout ça?
Alors, Citadelle Saint-Exupéry, hein, pas ouais. Citadelle au pluriel.
Ouais, ouais.
Pas la Citadelle de Calvi. Alors, c'est un jeune quatuor qui est un peu franco-japonais, on peut dire.
Oui.
Avec des jeunes qui se sont rencontrés au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Ils sont actuellement dans le parcours d'excellence du CRR de Paris, dans la classe de François Kiefer, hein, du Quatuor Modigliani.
Mmh.
Et puis ils ont été admis aussi à la chapelle Reine-Elisabeth. Ils ont été en résidence avec Pro Quartet. Ils ont joué à la Baule, à la Chaise-Dieu, à la Route d'Anthéron. Enfin voilà, bon, ils sont extrêmement jeunes, ils ont, moi j'ai trouvé une énergie absolument magnifique et un sens déjà de la rigueur qui est indispensable pour faire un grand quatuor. Parce qu'un grand quatuor, on parlait de Mendelssohn, mais c'est je pense encore plus de travail puisque là il faut être à quatre et,
ouais.
et sans le filet de l'orchestre. Donc c'est tous les jours et c'est un travail laborieux mais qui... Pour ceux qui ont le talent, réussit à donner les plus belles choses qui existent. Hein. Et là, on aura quand même Haydn, Mendelssohn, Mozart, avec notamment le numéro 15 de Mozart, le quatuor en ré mineur, Köchel 421, qui est une splendeur totale. C'est là qu'on se rend compte que si Mozart avait vécu 20 ans de plus, je pense qu'on aurait eu des choses absolument sublimissimes.
Ouais,
ouais. Enfin, on en a déjà pas mal, hein, faut le dire. Hein.
Et c'est un concert qui sera donné à Séchamp, autre concert décentralisé.
Oui.
Donc.
Donc au centre socioculturel qu'on aime beaucoup, qui a l'air un petit peu moderne vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ont réussi à avoir une très belle acoustique. Et donc c'est un lieu qui est tout à fait intéressant pour la musique de répertoire et la musique non sonorisée. Puis on est toujours très bien accueillis à Séchamp. Donc c'est un grand plaisir d'emmener ces jeunes là-bas et je pense que ça va être une belle fête.
Très bien. Eh bien, je propose d'écouter un extrait du quatuor à cordes de Haydn, mais dans l'interprétation de l'Amadeus Quartet, c'est le menuet de ce quatuor.
Thank you.
c'était le menuet du Quatuor à cordes en si bémol majeur, opus 76, numéro 4, dit « Le lever de soleil » de Joseph Haydn par l'Amadeus Quartet. Alors, autre quartet que vous, enfin, quatuor que vous invitez, c'est un quatuor de guitare, ce qui là n'est pas banal alors.
Oui, enfin, c'est pas banal, mais il y en a quand même, le quatuor de guitare, parce que à la guitare, on n'a que finalement quatre doigts pour faire toute la musique.
Oui.
Et les guitaristes adorent faire des transcriptions et aussi des compositions originales. Et donc, jouer à deux, jouer à quatre, ça correspond aussi à une tradition populaire, puisque, bon, je ne vais pas reprendre faire de la publicité pour quelques groupes pop très connus. Voilà, c'est assez courant de jouer de la guitare ensemble. C'est une tradition rome aussi, hein, tzigane.
Oui, oui, oui.
Donc, le quatuor, lui, ça fait 30 ans qu'ils travaillent ensemble, c'est avec la même équipe. C'est vraiment magnifique. Ils étaient déjà venus au festival il y a, je pense, 15 ans. Et ils avaient, je me souviens, vendu presque 50 disques, je crois, après le concert, ce qui est tout à fait exceptionnel. Enfin, maintenant, il paraît que les gens n'ont plus de lecteur CD, alors c'est un peu plus compliqué.
Même dans les voitures.
Oui, nous, on en a encore, Dominique. Enfin, voilà, alors, donc là, ils ont fait un programme tout à fait passionnant. Alors, ça va de Carulli, qui est le grand compositeur de guitare, celui qui a fait une méthode de guitare qui est encore utilisée. Hein. Là, on est au XVIIIe siècle. Hein. Mm-hmm. Et donc, et puis après, ils sont tous compositeurs, les Aigueta, donc Loli, Delpha, vont donner une de leurs œuvres chacun, et puis ils sont aussi des transcripteurs. Donc on va avoir tout un panel des possibilités de la guitare. Et la guitare, c'est presque un instrument à percussion, donc comme le piano. Donc il faut que la maîtrise des impacts, il faut beaucoup de travail, et bien s'entendre, alors c'est leur cas.
Bien, bah écoutez, on va écouter une transcription, enfin le début, l'ouverture du Barbier de Séville. Voilà, c'était le début de l'ouverture du Barbier de Séville par le quatuor Aigueta, qui sera l'invité du festival Nancyphonie le lundi 13 juillet à Nancy, dans les salons de l'Hôtel de Ville. Alors évidemment, on n'a pas pu entendre tout le monde et c'est bien dommage, mais pour une émission d'une petite heure, on est obligé de faire des choix. Alors j'ai choisi de terminer cette émission avec l'ensemble Le Bateau Ivre. Racontez-nous leur belle aventure.
Alors c'est un quintet un petit peu atypique, hein, puisque c'est avec la harpe.
Oui.
L'harpiste est le professeur de harpe du Conservatoire du Grand Nancy. Ils ont eu des prix internationaux, ils sont originaires de Strasbourg où ils se sont rencontrés, donc à la Haute École du Rhin.
Mm-hmm.
Et puis, ils ont beaucoup travaillé. Et ça fait 10 ans maintenant qu'ils mènent cette formation, qui a quand même du répertoire et des choses absolument magnifiques. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui a excité les compositeurs. Alors là, bon, ils ont fait un choix de répertoire basé quand même sur la France, avec des compositeurs qui pourront paraître parfois peu connus, mais qui ne le sont pas si peu que ça. Mmh.
Il y a même le régional de l'étape, avec Gabriel Pierné.
Ben, oui, il y a Pierné, évidemment. Il y a Tournier, donc harpiste. Jongen, qui est un Belge, qui était organiste, qui était qu'on considère comme un des plus grands compositeurs belges. Et puis, il y a Psyl, français, qu'on a un peu oublié, malheureusement, mais c'est l'extrêmement belle musique. Et surtout, on a, dans cette période du XXe siècle, beaucoup de raffinement dans l'écriture. Je pense que tout l'héritage de Debussy, Ravel, Berlioz, évidemment, est passé par là. Et l'école française a réussi à avoir cette subtilité qu'on trouve chez Massenet, par exemple, dans les orchestrations. Mmh. Et c'est tout ça qu'on retrouvera dans ce programme. Je pense que ça va être tout à fait printanier et estival, enfin plutôt estival, oui, que printanier. En tout cas, les deux à la fois, on verra quel temps il fait.
Oui.
Parce qu'à Nancy, il faut quand même se méfier, des fois, au mois de juillet, se retrouver avec un petit 15 degrés, ça arrive.
Et alors, les heures exquises qui ont lieu au Parc de la Pépinière, il y a une solution de repli en cas de...
Oui, ce sera au conservatoire. L'année dernière, on était privé de conservatoire parce que l'auditorium, les deux salles publiques étaient en travaux.
Oui.
Mais là, on va les retrouver puisqu'il y aura le récital d'Eric Mil-Rybarski, sur Merveilleux Steinway, que le conservatoire a acheté il y a quelques temps. Et donc, si jamais il y avait de la pluie, les concerts auraient lieu donc dans l'auditorium du Conservatoire du Grand Nancy.
Qui est à deux pas de la Pépinière.
Oui, il faut marcher un petit peu, mais enfin...
Oui, de grands pas, on va dire. Mais oui. Bien, écoutez, Hugues, merci. Je propose qu'on termine cette émission avec le final du quintet de Jean Krah. Thank you. C'était le final du quintet de Jean Krah par l'ensemble Le Bateau Ivre, pardon, qui sera un des invités du festival Nancyphonie. Hugues Leclerc, on rappelle les dates du festival et puis comment on prend la billetterie, tout ça?
Alors, nous commençons le 4 juillet avec la masterclass et puis deux concerts au kiosque. Et puis nous terminerons le 18 juillet par le récital de clavecin de Jérôme Mondésert. Les places sont disponibles sur notre site www.nancyphonies.com. Je le prononce à l'anglaise pour qu'on entende bien la terminaison. Et puis les places sont disponibles aussi à l'Office du Tourisme, aux heures d'ouverture de l'Office du Tourisme et évidemment à l'entrée des concerts. Et il y a des concerts gratuits, hein, puisque tous les concerts ne sont pas payants, même si les concerts payants permettent de faire vivre le festival.
Tout à fait. Vous avez des gens qui vous soutiennent, je suppose.
Oui, nous avons le partenariat, alors évidemment les collectivités publiques, hein, donc on commence par l'État, la région Grand Est, le conseil départemental 54, la métropole du Grand Nancy, la ville de Nancy, ville de Séchamps, ville de Vendeuvre. Et puis après, nous avons aussi des soutiens, on peut dire, de répartition, avec l'aspect d'IDAM qui nous soutient. Et nous avons aussi des mécènes, donc Saint-Gobain Pont-à-Mousson, qui est un mécène fidèle maintenant depuis plus de 20 ans. Mmh. Et notre cher Alain Collat, qui est un mécène bien connu sur la place de Nancy, qui soutient le festival depuis plusieurs années maintenant.
Bien, eh bien, écoutez, Hugues Leclerc, merci d'avoir participé à cette émission. Et puis, on vous souhaite un bon festival. Et puis, on vous dit à très bientôt.
À bientôt, Dominique. Merci beaucoup.
Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Joris pour la technique. On se retrouve mardi prochain.